Chapitre de communauté, 19 octobre 1982, Rimont.
Ce chapitre a une dimension un peu différente des autres chapitres, puisque ce sont les premiers pas que nous faisons ici, de façon maintenant complète, puisque jusque maintenant c'était des passages. Vous, ceux qui ont travaillé il y a déjà un certain temps, qui connaissent cette maison, mais il y avait le rythme du chantier et maintenant il y a le rythme de la vie conventuelle, de la vie monastique, de la vie de travail intellectuel. C'était quelque chose de nouveau, même si le chantier continuera encore toujours un peu, mais il ne sera plus le premier. C'est une vie beaucoup plus conventuelle, beaucoup plus monastique, beaucoup plus contemplative dans laquelle nous devons nous mettre dès aujourd'hui avec la messe du Saint-Esprit et nous mettre à notre travail intellectuel tout de suite, c'est-à-dire chacun d'entre nous selon un rythme particulier. Vous voyez, ce qui est difficile, et ce sera un des problèmes, je ne donne pas du tout dès ce soir la solution, elle est lente à voir. Il faut animer un couvent comme celui-ci, qui n'a pas été fait en premier lieu pour être un couvent. Ça fait partie de notre pauvreté. Ça, c'est très bien. C'est plus facile quand on construit un couvent et qui est directement à la dimension qu'on désire. Ça fait partie de notre pauvreté d'habiter un lieu qui n'a pas été construit pour être un couvent. Signe des temps. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Non ? A été construit pour autre chose, et puis de fait la Providence fait que c'est fait pour un couvent, et que ce couvent, d'habitude les couvents construisaient d'abord et puis ils le laissaient pour d'autres après. Ici c'est l'inverse, et nous entrons dans des grands pieds, une chaussure énorme, on a transformé les dortoirs en petites cellules. Les petites cellules sont très habitables, c'est très bien. Je crois qu'on peut vraiment arriver à aimer sa petite cellule. Parce qu'il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut tout de suite demander à la Vierge Marie d'y habiter. Et alors, si elle vient habiter avec nous, on l'aime beaucoup. Et on aime sa cellule. C'est un lieu auquel on revient instinctivement. On doit l'aimer parce que c'est là où vous devez travailler, avant tout. Et c'est le lieu de prière, c'est le lieu de travail. pouvez pas avoir le Saint-Sacrement dans vos cellules, parce que ce n'est pas encore admis entièrement dans l'Église, mais il faudrait en avoir le désir. Et que dans la cellule, vous vous orientez vers le lieu où il y a le Saint-Sacrement. Ça doit vous aider. Parce que la cellule doit être un lieu qu'on aime, un lieu de silence. Et ce passage de la règle qu'on vient de vous lire vous rappelle cela. Je crois que là, nous avons tous un effort à faire. Tous. Un effort que, de fait, on essaie de garder le silence entre nous. Mais pas uniquement le plaisir de garder le silence. Être fort dans le Christ n'est pas du stoïcisme. Être fort dans le Christ, c'est aimer avec une intensité telle qu'on garde le silence parce qu'on aime et qu'on veut aimer intensément et qu'on se respecte. Alors on garde ce silence intérieur. On garde le silence aussi à l'égard des gens de l'extérieur. Alors ça, il y a beaucoup à dire là-dessus. Entre autres à l'égard des sœurs. Les petites sœurs de Bethléem, il n'y a pas grand danger parce qu'elles sont cloîtrées. Très, très cloîtrées. Elles vous donneront des leçons. N'est-ce pas? C'est très bien. Je leur dis de donner des leçons. Elles font ça vraiment parce qu'elles sont très, très, très. Elles nous aiment beaucoup et qu'elles veulent avoir un silence très profond et très intense. Alors, je crois qu'il faut là prendre une leçon. Mais à l'égard de nos autres sœurs, je crois qu'il faut faire un effort de garder le silence. Vous n'avez aucune raison de leur parler, sans permission spéciale. Ça, je crois qu'il faut tenir ça très très fort. Mais c'est évident, c'est là la différence avec les foyers de charité. Et nous sommes consacrés d'une manière plus explicite à Dieu. Il ne faut pas qu'ici ce soit un foyer de charité. L'esprit de Marthe. Et Marthe serait la première à nous dire. Elle aurait voulu que les foyers de charité soient comme des petits carmels. Il faut voir comme les carmélites gardent silence. Elle me l'a dit, ça. Qu'elle aurait voulu que les foyers de charité soient comme des carmels. Et que la vocation de foyer de charité, ce soit comme le carmel. Donc l'esprit de Marthe, nous le prenons. Et nous désirons que, de fait, nous vivions cet esprit du carmel, qui est l'esprit du silence. Nous vivons de l'esprit de la vie monastique et de la vie monastique cartusienne et de la vie monastique cistercienne avec Saint Bernard. Parce que dans le ciel, Saint Bernard et Saint Bruno s'entendent très bien. Alors il y a ce désir de vivre de cet esprit. Et je crois que là, vous voyez, on peut aller très loin dans l'ordre de l'esprit. Il y a quand même un absolu. Et je crois qu'on doit tous faire un effort là-dessus. Je crois que c'est le premier effort pour que ça devienne un monastère que dès qu'on entre de suite, immédiatement on sent qu'il y a un monastère, c'est-à-dire une vie de silence consacrée à Dieu. Pas le silence glacial, un silence chaleureux, un silence merveilleux. Et vous savez, quand on voit des personnes étrangères, on peut très bien les saluer gentiment et on continue. Dans son silence, on ne s'arrête pas nécessairement. Il y a un père hôtelier qui est là pour recevoir les étrangers. Et les familles, même si on les connaît, on leur fait un petit bonjour, merveilleux, puis on fait comprendre qu'on est dans le silence. Et puis si on a la permission d'aller voir, très bien. Vous voyez, jusque maintenant, c'était un peu ouvert à tout. Comme dans un foyer de charité. Je crois qu'il faut arriver à comprendre qu'il y a une tenue, mais profonde, voyez pas tenue, une tenue intérieure profonde de ce silence, pour que nous puissions nous fortifier dans le Seigneur, les uns et les autres. Et nous donnons alors un témoignage de très grande vérité quand c'est comme cela. Et c'est ce qui nous aidera d'abord à approfondir notre vie contemplative, notre vie d'oraison. Au début, on est novice, hein. Dans la vie d'oraison, on le reste tout le temps, mais ça nous donnera soif de la prière perpétuelle, de prendre dans notre cœur cette prière constante, Jésus aie pitié de moi, pauvre pécheur, et répéter ça indéfiniment. Marie, Dieu, aie pitié de moi, ton pauvre enfant. Qu'on répète ça indéfiniment et qu'on le vive intérieurement. Alors à ce moment-là, on n'a pas du tout envie de parler à droite et à gauche, parce qu'on est habité par quelqu'un de plus grand que nous et de plus fort que nous. Et ça, je crois que tous nous devons faire un effort, vous voyez. Je vous le rappellerai constamment, pas seulement moi, parce qu'il y aura d'autres voix qui le rappelleront, mais nous rappellerons constamment qu'il faut qu'il y ait cela. C'est absolument nécessaire. Vous voyez, donc il y a un effort à faire. Les plus anciens, ceux qui sont moins anciens, et ceux qui arrivent. Alors je souhaite tout de suite un grand, grand bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Je ne connais pas encore énormément, mais que j'espère vite, vite connaître. Hein, parce que je crois que c'est très important. Quand une famille augmente, il faut que tout de suite les jeunes soient assimilés le plus vite possible avec les anciens, mais dans ce qu'il y a de meilleur des anciens. Et par le fait même, ils apportent une exigence de silence aussi. Et ça, je leur demande d'apporter cette exigence de silence, parce qu'il le faut, c'est nécessaire. Je sais bien que ce n'est pas commode, hein, parce que naturellement, l'homme parle à son voisin. Pas seulement la femme qui parle à sa voisine, mais naturellement, l'homme parle à son voisin. Et il aime bien de converser, c'est l'aspect politique qui est en nous. Nous avons beaucoup de peine à devenir des êtres qui vivons vraiment de Dieu. Alors il faut que nous fassions tout cet effort mutuel les uns avec les autres. Je crois que c'est très important. On va essayer de faire que ce ne soit pas une collectivité, mais une communauté de chrétiens. Et de chrétiens consacrés à Dieu. De chrétiens qui veulent mener une vie contemplative. Parce que 80, ça peut être un agrégat. Ceux de Fribourg ont l'avantage de ne pas être très nombreux. Mais ici, il y aura une très grande vitalité, de sorte que ceux de Fribourg seront jaloux de ceux de Rimont. Très bien. Je souhaite qu'ils restent jaloux de ceux de Rimont. Parce qu'à Fribourg, on aura une vitalité prodigieuse, c'est pas ? Une vitalité divine merveilleuse. Alors, ceux de Fribourg, très bien, on ne les oubliera pas. On les prendra de notre prière tous les jours. Mais, évidemment, le cœur de la communauté Saint-Jean doit être ici. Ça, c'est sûr. Il doit être ici. C'est bien évident. Ils me diront à ceux de Fribourg qu'on les aime beaucoup, 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 et qu'ils ne sont pas du tout étrangers à nous, mais que le cœur de la communauté est ici. Et ça, je le demande très fort à la Vierge Marie. Que vraiment, ce soit ici le cœur de la communauté, et que la communauté commence de battre d'une façon nouvelle, un renouveau. Il y a une grâce nouvelle qui nous est donnée. Il ne faut surtout pas le rater. Il y a une grâce nouvelle et un renouveau qui doit se faire et qui exige de tous quelque chose de plus. Alors on verra pour ceux de Fribourg si de temps en temps, on ne leur permettra pas de venir passer 15 jours ici, ben, permission comme ça, pour qu'ils puissent quand même voir qu'il y a une bonne vitalité ici, qu'ils reviennent à Fribourg en disant, vous savez, hein, il faut garder un peu plus de silence. Parce que de fait, ce sera une exigence profonde ici. Ça, j'essaierai d'être très bon avec vous, mais d'être très ferme là-dessus. Je demande à la Vierge Marie de me permettre d'être très ferme là-dessus. Parce que c'est très important. Pour l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui attend beaucoup de nous. Vous savez, maintenant on sera sous le joug des journalistes, hein, ça a commencé déjà, parce que à Paris tout le monde m'a parlé de l'article dans le Figaro, évidemment, ça fait bavarder les gens. La Libre Belgique a fait un article aussi, sensationnel, hein, dont j'ai eu les échos. Alors vous voyez, maintenant on est sur les... Alors, il ne faut pas se dire qu'il faut, il faut avoir une image de marque qu'il faut donner aux journalistes, c'est pour ça être vrai en face de Dieu. Et si vous êtes vrai en face de Dieu, vous comprenez que Dieu réclame de nous un cœur de moine. Alors, il y aura forcément une petite communauté spéciale pour les novices. Les novices, c'est ceux qui arrivent, les aspirants, et puis ceux qui ont pris l'habit, mais qui n'ont pas encore fait profession. Alors, ceux-là, le père Philippe-Marie et moi-même, nous en chargerons d'une façon très particulière. De façon très, très, une tendresse extraordinaire. Tendresse maternelle, mais avec en même temps beaucoup de force. Alors ça, c'est vrai. En premier lieu, nous sommes pour cela. Pas de jalousie hein, pour les autres, hein, mais les 3 degrés, ceux de Fribourg, ils me sont parce que très particulière, c'est normal dans une famille. Vous savez, la manière dont les jeunes mamans portent leurs petits aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est, en Afrique, on les porte sur le dos, maintenant, on les porte devant. C'est merveilleux, ça. C'est voir ces jeunes mamans qui portent ça. Alors, nous porterons les novices comme ça. Ce sera extraordinaire de les porter avec une sainte jalousie. Alors, là, vraiment, nous serons très proches d'eux. Et dans la mesure du possible, j'espère pouvoir les voir tous les 15 jours. Ça n'empêche absolument pas Père Philippe-Marie de les voir aussi tous les 15 jours.
Non, je note.
Oui, c'est vrai. Profession de foi, et d'amour pour les jeunes qui arrivent. Les autres, je ne les abandonne pas, tu vois. Le Père Marie-Alain s'occupera d'eux d'une façon assez particulière. Mais ils seront là. Je crois qu'il vaut mieux. Mais attention, il n'y a qu'un prieur. Il n'y a pas deux prieurs. Il n'y a qu'un seul prieur. Mais la charge plus immédiate, vous voyez, c'est deux choses différentes, je crois. Alors, il n'y a qu'un seul prieur. Donc, au niveau de l'obéissance fort externe, c'est le père Philippe-Marie. Il est le prieur du couvent. Il n'y a pas deux couvents ici, hein. Mais il y a un couvent avec des modalités différentes à l'intérieur du couvent. Oui. Alors là, il y a un rythme qu'on va essayer de trouver. Si vous avez des idées géniales, vous les direz. Parce que c'est important de trouver ça. Pour essayer de faire que ce soit une communauté organique, vivante, d'une vie contemplative, d'une vie qui soit sous la motion de l'Esprit Saint, avec la Très-Sainte Vierge. Alors c'est pour ça que je crois qu'il faut comprendre, il y a une unité, donc une autorité de fort externe. Moi-même, je me soumets à l'autorité de fort externe. Mais attention, attention, attention. Je me soumets, c'est-à-dire que nous sommes en coordination. Nous ajustons nos violons. N'est-ce pas? C'est comme ça.
Vous êtes là, vous êtes prieur.
Quand je suis là, je suis prieur supérieur. C'est pas parce qu'il est prieur délégué. Alors je suis prieur, je suis d'accord. Donc les décisions passeront toujours par moi. N'est-ce pas? Quand je suis pas là, c'est lui. Vous voyez? Et comprenez, la même autorité. C'est pas deux autorités, c'est une même autorité. Je sais pas comment on pourrait dire théologiquement ça, n'est-ce pas? Ça fait partie d'une espèce de
double tête.
Double tête, mais pas double tête à la Parménide. Double tête dans l'unité chrétienne, dans l'unité mariale. Vous voyez ? Et le père Marie-Alain, quand il est là, alors lui, au point de vue des études, c'est toujours lui qui a l'autorité avec moi. Hein ? C'est-à-dire qu'on se soumet les choses, et au point de vue de l'autorité. Et alors, au point de vue des groupes, des deux groupes à l'intérieur de l'unité, il faudra s'accorder pour qu'il y ait une unité, mais on essaiera de faire qu'il y ait quand même deux groupes. C'est nécessaire. Mais qu'il y ait une unité, c'est-à-dire qu'il y aura des récréations communes, c'est bien évident. Mais qu'il y ait deux groupes différents. Alors ça s'organise. De sorte que, vous voyez, le groupe des prophètes, quand ils auront des idées géniales, pour que le groupe puisse avoir sa physionomie particulière, il les soumettra au père Marie-Alain. Qui me les soumettra ou les soumettra au père Philippe-Marie. Pour que ça puisse s'organiser comme ça. Et puis ceux qui sont des postulants soumettront leur idée géniale. au Père Philippe Marie et moi-même, pour qu'on puisse arriver à vraiment coordonner une unité. Le réfectoire est commun, c'est bien évident. Parce que les poupons ont besoin quelquefois d'un peu plus de lait, mais ici, comme ce ne sont pas des poupons qui sont d'ordre biologique, mais qui sont d'ordre spirituel, ça revient au même. La même nourriture pour tout le monde. La même nourriture pour tout le monde. La même table pour tout le monde. Le même office pour tout le monde. Et donc, à ce moment-là, on verra. Ça, c'est les chantres qui décideront cette question-là. S'il vaut mieux des répétitions particulières, quelquefois, pour les plus les jeunes, n'est-ce pas, les novices et les postulants, peut-être, qu'il faut être une répétition en plus. Parce qu'ils sont un peu plus libres que les autres. Un peu plus libres au point de vue intellectuel. Vous voyez, il est évident que les prophètes doivent travailler intellectuellement plus, normalement. Et les novices, et les ceux qui aspirent à être novices, hein, les sous-novices, n'est-ce pas ? Alors, à ce moment-là, eux, il n'y a plus de nourriture spirituelle. On peut le faire ici. À Fribourg, on ne pouvait pas le faire. Ici, on le fera, parce qu'il y a une formation spirituelle qu'il faut donner davantage. C'est pour ça qu'il y aura des conférences spirituelles réservées à eux. Le Père Philippe Marie et moi-même, nous les donnerons. Et alors là, il y a une formation plus spirituelle. C'est pour ça qu'on essaiera d'alléger, au point de vue philosophique, un peu leur cours, pour qu'ils aient plus de temps. Non pas être oisifs, mais à prier plus. Lectio divina, un point de vue spirituel, et peut-être des leçons de chambre supplémentaires qui leur sera donnée pour que, de fait, ils puissent davantage entrer dans ce que représente l'office. Parce qu'il faut y entrer davantage. Pour nous, c'est pas si commode que ça, de prier pendant l'office. On prie pendant l'horizon, et puis pendant l'office, on est mobilisé, encore pour prier, mais quelquefois, c'est une mobilisation générale, on ne sait pas très bien. Alors, c'est vrai, c'est l'image de vieux chat noir, n'est-ce pas ? Vous ne récitez pas l'office comme des vieux chat noir, heureusement, parce que vous êtes tous des jeunes. Alors, c'est... Mais quelquefois, il y a quelque chose comme ça, c'est le vieux chanoine qui... Il y a un orage, alors celui qui préside, il tape sur dessus en disant « Arrêtons et prions !» Alors, quelquefois, on a l'impression que la prière, elle devrait être une prière. On prie tous, et quand on prie tous, quelquefois, individuellement, il y en a quelques-uns qui braillent. Alors, il faut tous prier, et c'est ça qui fait l'unité d'une prière. Et ça, il faut l'apprendre. On apprend. C'est l'exercice éminent de la charité fraternelle, la prière liturgique. C'est l'exercice éminent. Mais il y a quelque chose encore plus profond, c'est l'oraison. Et l'oraison, c'est pour chacun. Et alors, il faut apprendre l'oraison. Et c'est pour ça que au noviciat, on doit davantage apprendre à faire l'oraison. Et ce sera les cours privés qui seront donnés pour les novices, ce sera ça. Alors, voyez, au point de vue du fort interne, vous savez bien, c'est dit du raison la règle. Je crois que tant que, je ne dis pas fondateur parce que je n'aime pas le terme de fondateur, et tant que la Providence me laisse au milieu de vous, je crois qu'il y a une unité qui doit se prendre. On me l'a demandé à Rome, et le Saint-Père me l'a redemandé, parce que comme je quittais Fribourg, j'ai demandé au Saint-Père, et je voulais quand même lui demander, parce que c'est mon autorité, hein, Saint-Père. Parce que je n'ai plus les Dominicains. Le Père Abbé de l'Hérens, c'est bien, c'est vrai, mais c'est pas totalement l'autorité. Et c'est vrai, puisque quand je reçois dans la communauté Saint-Jean, je ne demande pas conseil au Père Abbé. Et quand on prend l'habit non plus, alors je demande conseil, mais vous n'êtes pas pour moi au sens strict de l'autorité. Alors on est rattaché directement au Saint-Père, de façon assez particulière du reste. Et le Saint-Père, elle accepte tout à fait. Je dis, vous êtes mon autorité immédiate. On lui dit, oui. Vous êtes là, je vais demander conseil. Je lui dis, écoutez, moi, je termine Fribourg. Est-ce que vous croyez que je dois continuer au milieu de la communauté Saint-Jean ? Parce que c'est vrai, de temps en temps, quand on écoute à droite et à gauche, on a des échos. Ce sont des opinions pour moi, mais ça ne fait rien. On doit tenir compte un peu de tout ça. On dirait que la communauté Saint-Jean serait parfaite si Père Philippe n'était pas là. On dit, bon, c'est pas. Alors, oui, c'est un enterrement anticipé. On se dit, il vaudrait peut-être mieux. En effet, j'ai demandé aux appels. Sa père m'a dit, elle est encore trop jeune, restez. Pour l'enseignement, pour la métaphysique, pour le point de vue spirituel. Très bien. Alors, parce que sa père me dit ça, je reste. J'ai demandé conseil aussi avant. Je reste. Et je reste pour vous ce que je crois que la Providence et la Vierge Marie réclament pour vous. C'est-à-dire qu'on doit être au milieu de vous comme un père, au sens très fort. Une autorité paternelle qui doit vous écouter, vous aider, vous corriger. Ça, c'est sûr. Donc, on est à la fois, et ça, c'est le propre de toute fondation. On garde une autorité externe, de fort externe, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, et on a l'autorité de fort interne. L'Église habitude sépare les deux, mais dans un état embryonnaire de fondation, les deux sont unis. Je dis ça, c'est parce que ça peut poser quelquefois des petits problèmes. C'est de fait, on est dans un état embryonnaire. Vous savez bien, quand j'ai offert au Saint-Père photographie merveilleuse du Christ, du sourire du Christ de l'Erin. J'avais dicté au Père Abbé, ce qu'il fallait mettre par derrière, la communauté de l'Erin, ce qui porte en son sein la communauté de Fribourg. Vous voyez, on est à l'état embryonnaire, ad experimentum. C'est l'état embryonnaire, c'est très vrai, ça. On est à l'état embryonnaire. C'est pour ça qu'à la fois, il y a une très grande vitalité, mais en même temps, il y a une très grande fragilité. Alors on est dans un état embryonnaire, et tant qu'on est dans un état embryonnaire, c'est forcé. L'autorité de fort externe et de fort interne sont unies. Au début, moi j'avais voulu tout de suite me décharger, on me dit non, on n'a pas le droit. Alors très bien, j'accepte, puisque Rome me le demande. Alors, ceci c'est pour vous faire comprendre qu'au point de vue fort interne, il est bien évident que je suis à votre disposition pour tous, direction spirituelle et confession. Mais, au point de vue confession, l'Église demande une très grande liberté. Vous voyez, on peut toujours bien distinguer. Je crois que si on est totalement donné à la Vierge Marie, quand on a l'ouverture du cœur, normalement, la confession se suit. Pas beaucoup de problèmes. Mais ça peut se faire. Il y a des questions de sensibilité. Alors, vous avez comme confesseur le Père Philippe Marie et vous avez le Père Marie-Alain. Et là, vous devez avoir une très grande liberté. Vous voyez, une très grande liberté dans le sens que ce n'est pas seulement dire « Ah, quand le Père Philippe n'est pas là, je... » Non, non, une très grande liberté. Mais je crois qu'il faut maintenir aussi la très grande unité. Vous voyez, et si je le demande, ce n'est pas pour moi, croyez-le bien. Mais c'est par rapport à la communauté. C'est par rapport à la communauté, je crois qu'il y a une grâce que le Seigneur demande d'unité auprès de la Très-Sainte Vierge. Et donc, il est bon de pouvoir se voir. Et c'est pour ça que je dis que je recevrai les novices tous les 15 jours. Ben, à ce moment-là, c'est pour l'ouverture du cœur, au sens très très simple, c'est pas une chose, c'est pas une espèce de direction psychologique, vous savez bien, c'est pas ça du tout, c'est quelque chose de très simple. Si ça va, c'est très vite fait, ça peut se faire en 5 minutes, ça peut se faire en 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça n'a pas d'importance, c'est pas la question du temps. Et puis la confession, si on le veut, et si on préfère, on peut se confesser au Père Philippe Marie ou au Père Marie Alain. Et puis on verra, c'est pas encore fixé, la question du confesseur extraordinaire.
Vous avez dit qu'on fait demander Père Emmanuel de...
Oui.
Je lui ai demandé.
Vous l'avez demandé, c'est fait, très bien. Alors, je demande quoi ?
Il n'y a pas de réponse.
Il n'y a pas de réponse. Mais on l'a demandé, vous voyez, c'est bon. Parce qu'il y a toujours besoin d'une soupape de sûreté. Parce que certains, j'ai eu des échos comme ça, on dit, ah non, quand même. Je ne veux pas être tyran, vous comprenez. Mais certains, on dit que quand même, il serait peut-être bon d'avoir un confesseur extraordinaire. Très bien, je ne demande pas mieux. Alors, on demandera au Père Emmanuel, il est extraordinaire. Vous le connaissez déjà, beaucoup d'entre vous, quand on passe là-bas, c'est bon de continuer. Alors, soupape de sûreté. communauté. Vous voyez, c'est ça. Je crois qu'il ne s'agit pas de séparer, de diviser. Il faut comprendre l'unité profonde. Et le Père Emmanuel, vous savez bien, ça ne fait qu'un cœur et une âme. Et c'est vrai, il fait partie de la communauté Saint-Jean, mais pas encore juridiquement. Donc il faut faire un petit peu attention. C'est pour ça qu'il faut toujours distinguer juridiquement la communauté de Montmorin. Mais d'autre part, c'est l'unité.
On avait dit que le prophète pourrait peut-être aussi choisir un des jeunes pères pour se confesser.
Oui, pour les prophètes. Pas pour les novices. Quoi ?
Vous le maintenez, ça ?
Oui, je maintiens ça. Je maintiens que les prophètes peuvent se confesser. Mais je leur demanderai que ce soit plutôt exceptionnel. C'est pas du tout que je n'ai pas confiance dans les jeunes pères. Hein. C'est pas ça du tout. Mais c'est parce que c'est, je crois, mieux. Donc, c'est un peu exceptionnel. Normalement. Je crois qu'ayant les trois, c'est déjà bien. Vous voyez ? Vous êtes des novices prophètes, il ne faut pas l'oublier. Même les prophètes, ce n'est pas encore. Quand on est vraiment qu'on a fait profession, à ce moment-là, on prend celui qu'on désire. Hein. C'est. Mais vous je crois que c'est bon. Encore une fois, je suis persuadé que les jeunes pères qui sont là savent très bien que ce n'est pas du tout un manque de confiance. C'est pas ça du tout. Ça semble ça. Si c'était un manque de confiance, je ferais l'inverse. Je leur dirais, oui, allez vous confesser si vous voulez, puis tant pis. Non, c'est par amour pour vous que je dis ça, je crois. Il y avait d'autres questions ? S'il y a des questions sur ce sujet-là, posez-les tout de suite, parce que c'est important qu'on voit bien le point de vue du fort interne et le point de vue du fort externe. J'espère que tout le monde voit bien la distinction du fort interne et du fort externe. C'est une division. Bon, alors je vais le dire. En quelques mots. Le fort interne. On a le temps. Hein.
On a tout le temps.
6h30. Bon. Alors vous avez le droit de poser toutes vos questions. Vous voyez, fort interne, c'est l'action de l'Esprit Saint en vous. L'action de l'Esprit Saint en vous. Vous ne la voyez pas toujours très bien parce que vous ne savez pas si c'est votre imagination ou vous. C'est là où l'ouverture du cœur joue. Le fort interne, c'est donc l'action d'Esprit Saint en vous. À côté du fort interne, il y a le fort intermédiaire. C'est-à-dire toutes les tentations que vous pouvez avoir, qui ne se voient pas si vous êtes suffisamment vertueux. On vous demande quelque chose qui vous ennuie prodigieusement. Vous grincez des dents intérieurement. Vous avez envie de renvoyer promener celui qui vous a dit ça, ou de lui répondre. Ça peut arriver, on n'est pas vertueux du premier coup. Mais ça ne se voit pas. Ce n'est pas le fort externe. Tandis que si, parce que vous êtes énervé, vous cassez une assiette sur le dos du voisin, ça peut arriver, ça peut arriver. Ça, c'est du fort externe. Vous voyez ? D'abord, ça s'est entendu. Et c'est du fort externe, ça s'est vu. Ça s'est vu, on voit très bien. Si vous avez répondu à quelqu'un d'une façon un peu trop violente, avec un gros mot à la clé, c'est du fort externe. C'est du fort externe. Alors, vous vous en accusez au chapitre. Quand le prieur demande de faire telle ou telle chose et qu'on ne le fait pas, quand on n'a pas assisté à un cours et qu'on devrait y assister, on n'a pas eu de permission, on n'est pas dans une université ici, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans une université, on peut prendre à l'aise. Ici, vous pouvez en prendre encore beaucoup plus à l'aise, mais dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Dans l'obéissance où au Père Marie-Alain, ou à moi-même. Alors évidemment, soyons intelligents, vous voyez. Je ne sais pas, vous avez un mal de tête terrible, et vous dites, ça ne servira à rien d'assister au cours. Il vaut mieux me promener à ce moment-là. Soyez suffisamment intelligents, si vous pouvez frapper à la porte du Père Marie-Alain qui est là, vous demandez la permission. Si je suis là, vous demandez la permission. Vous savez, 3 minutes avant le cours, on est d'une indulgence formidable. Alors, on vous demande, j'ai mal à la tête, je ne pourrais pas suivre très bien, est-ce que je peux aller me promener ? Allez vous promener. C'est vrai, parce qu'on n'aime pas d'avoir des têtes de bois devant soi, mais pendant un cours. Alors, on aime beaucoup mieux qu'il aille se promener pendant ce temps-là, parce que c'est ça, allège. Alors, vous voyez, il faut demander la permission. Alors ça, c'est de l'obéissance de fort externe. On ne l'a pas demandé, on s'en accuse. Il peut très bien pas y avoir de faute, vous voyez. C'est pas... L'obéissance de fort externe n'est pas toujours une faute en face de Dieu. Dieu a un cœur plus grand que l'autorité de fort externe. Dieu a un cœur plus grand que notre règle, heureusement. Mais nous devons d'appliquer notre règle. Et alors l'application de la règle, c'est le fort externe. Et on demande l'obéissance. Par exemple, on ne doit pas manger entre les repas. Pour une raison ou pour une autre, on est forcé parce qu'on est dans un état de fragilité telle. Et le rythme des poupons n'est pas le même que le rythme des adultes. Or, on a besoin de manger entre les repas. Mais qu'on le dise, qu'on le demande, on l'acceptera tout simplement. Mais c'est dans l'obéissance. Alors, par le fait même, c'est plus un caprice. Il faut arriver à dépasser ça. C'est sa propre éducation sur soi-même. Vous voyez, c'est comme ça qu'on acquiert progressivement la prudence. L'obéissance est pour nous aider à être prudents. Et l'obéissance de fort externe, c'est-à-dire par rapport à la règle, par rapport à ce que représente un règlement, c'est pour nous aider à être prudents. Parce qu'on pourra discuter à ce moment-là. Vous voyez, si vous demandez 3 minutes avant le cours, on n'aura pas le temps de discuter. Alors on vous dira oui. Mais si vous demandez une demi-heure avant, alors on pourra discuter ce que vraiment vous croyez, c'est bien utile. On posera un tout petit peu la question. Pour essayer de sonder un peu, c'est normal. C'est votre bien, croyez-le bien. C'est votre bien. C'est votre bien qu'on désire. L'autorité est en vue du bien de chacun. C'est un service. Il faut beaucoup prier pour ceux qui exercent l'autorité. Parce que c'est pas commode d'exercer l'autorité. Ici, c'est relativement facile, mais c'est quand même toujours assez difficile parce qu'on sait très bien que ce qu'on dira de temps en temps sera reçu de telle ou telle façon. Alors, on doit beaucoup prier. Et si on prie beaucoup pour ceux qui ont l'autorité, on obéira beaucoup plus facilement. Donc, l'obéissance, vous voyez, je mets l'obéissance de fort externe, vous voyez bien ce que c'est. On s'en accuse au chapitre si on n'a pas demandé de permission. Et on peut toujours, quand on n'a pas demandé de permission, on peut toujours venir après, et c'est même bon de le faire. De venir dire, écoutez, voilà, j'ai dit ça, mais je n'ai pas oublié. J'ai pas eu le temps de vous le demander. Ou j'avais peur que vous le refusiez. Vous voyez, quand vous vous levez, par exemple, à la place de se lever au moment où ça sonne la cloche, le matin, et qu'on reste endormi. Quelquefois, on reste endormi parce qu'on est fatigué. On est fatigué, on n'entend pas. Alors très bien, ce n'est pas une faute. Et c'est quand même une faute par rapport au règlement. On vient le dire, et on le dit. Et on s'en accuse au chapitre, parce que c'est une faute de fort externe. On ne s'accuse pas au chapitre de faute de fort interne. Jamais ça. Pas au chapitre. On s'accuse de fait, vous n'allez pas dire. J'ai une tendance à la paresse. Tendance à la paresse, ça ne fait pas partie du fort externe. Mais vous pouvez dire, je ne me suis pas réveillé et c'est délibérément. J'ai beaucoup de peine le matin à me réveiller. J'ai beaucoup de peine parce que je suis habitué à me réveiller plus tard. Ici, c'est vraiment très tôt comme règlement. C'est très, très tôt. Là, j'ai beaucoup de peine à m'y mettre. C'est vrai, au point de départ, c'est forcé. C'est un règlement nouveau. Et alors, il faut se remettre à un règlement. Alors ça, vous voyez, on ne s'accuse pas de tendance au chapitre. Le fort interne, c'est... l'Esprit Saint en nous, c'est l'action de Marie en nous. Et cette action, il se discerne par rapport à notre propre volonté et par rapport aux tentations. Et c'est pour ça qu'à côté de ce fort interne, il y a ce fort intermédiaire. Et l'ouverture du cœur, c'est justement nous habituer à découvrir ce qu'est tentation en nous. Ce qui peut être du scrupule. Arriver à discerner ce qui est vraiment de l'ordre divin et puis le scrupule. Il faut que nous fassions ce discernement. Nous sommes appelés presque tous, hein, pour plus tard, à quand même diriger. Or, si on ne comprend pas sa propre direction, la manière dont l'Esprit Saint nous dirige, si on n'arrive pas à discerner cela, on ne pourra jamais faire pour les autres. Se connaître soi-même et arriver à ce discernement-là, c'est excellent, ça c'est merveilleux, c'est bon. Donc, voyez, arriver à discerner le point de vue du fort externe, le point de vue du fort interne et le fort intermédiaire. Le fort intermédiaire, les tentations, les difficultés qu'on a, voyez. On dit, ah, il y a ce frère à côté de moi, il suffit qu'il soit là pour que je ne puisse rien faire, qu'il soit vraiment bien. C'est vrai, il y a des antipathies et des sympathies. Dès qu'il y a des nouvelles têtes, on regarde quand même un peu. Il y a celui-là, oui. Génial, merveilleux, extraordinaire, peut-être extraordinaire celui-là. Mais l'autre, il faut éviter ces jugements-là. Il faut éviter, on n'a pas à juger selon les apparences. Et alors, c'est instinctif, ça. Parce que la vie religieuse, la vie monastique nous rend sensibles. Et puis, il y a un sevrage des sens externes. Alors, parce qu'il y a un sevrage des sens externes, quand il y a des nouvelles têtes, vous comprenez, on est beaucoup plus perceptible que quand on a 100 têtes qui vous passent pendant la journée. Là, on est dans une famille bien orientale. On s'aime mutuellement, on s'accepte avec beaucoup d'amour. Et donc, il y a les sympathies et les antipathies, faisons attention. Dépassons les sympathies et les antipathies. Le véritable amour divin dépasse là et nous fait nous aimer vraiment. Ce n'est pas supprimer les passions, c'est les éduquer. Il ne faut pas supprimer, on n'est pas des stoïciens. Surtout pas. On doit arriver à s'aimer profondément les uns les autres dans le regard de Dieu et dans le regard de Marie. Donc voilà pour la question de l'autorité. Alors, maintenant, il y a des petites nouvelles particulières, n'est-ce pas ? On va essayer de voir ça ensemble, progressivement. D'abord, ce soir, hein, il y a la petite l'oblature de notre sœur, doublement sœur, sœur Sabine. Alors, il y aura cette oblature, je crois, avant qu'on plie. Elle sera très simple. Je ne ferai pas un long discours parce qu'elle a déjà entendu le précédent. Alors, c'est pas sûr. Donc, ce sera très très court. Parce que la dernière fois, ben, ça n'a pas pu se faire, alors on l'a remis. Et puis, alors il faut prier pour elle. C'est une oblature séculière de sœur Sabine, qui désire aller vite, vite vers quelque chose de plus. Mais ça, c'est la Providence qui permettra. Alors, nous avons le départ mardi 19 après-midi.
Non, alors ça, c'est changé.
C'est gentil. Des frères qui vont aller à Reims. Alors, les frères Marie-Christian. Oui, je sais. Jacques-André et frère Marie. Jean-Marie. Alors, frère Piotr devait y aller. Et frère Piotr actuellement demande de retarder un peu son passage à l'Erins. Je vous demande de prier pour lui, parce que j'aurais aimé qu'il soit là aujourd'hui. Il n'est pas venu. Pour des raisons du reste qui sont à la fois politiques, puisque c'est difficile pour lui de passer la frontière, il est dans une situation assez délicate. Mais il faut prier pour lui. Alors on verra qui on va enverrer à l'Erins, parce qu'il faut qu'il soit à 4. Nous voyons ça après. C'est la dernière minute. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, parmi vous ! Ah, y en a-t-il un volontaire pour les Reims ? Les deux, on va voir toutes les mains qui se lèvent.
Polycarpe. Jean-Marie Baptiste.
Et puis qui ?
Jean-Marie Baptiste, Marie.
Jean-Marie Baptiste.
Oh, très bien.
Très bien. Et puis qui encore ?
Marie.
Ah, Marie, oui, ça sera frère Marie, donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure. J'avais prophétisé. Donc, alors, qu'est-ce que vous décidez ? Bon, on va réfléchir. J'irai au conseil divin. Et alors je dirai, il le saura, ne vous inquiétez pas. les frères qui vont à Cotignac. Parce que ça, il faut aussi à Cotignac. Avec Marie-Benoît, vous savez, qui est le prieur. Marie-Thomas, qui est le curé. Curé de Cotignac. Le frère Marie-Bernard, qui est curé de Carcet. Et puis Pierre-Marie, qui est pour les pèlerinages, pour le titre exact, c'est Chapelain. Vous voyez, il forme à quatre un groupe imposant. C'est vrai, quand on regarde aujourd'hui, c'est un groupe imposant. De sorte que les frères qui iront là-bas, c'est pour que, de fait, les quatre puissent former une communauté monastique, liturgique et une communauté de prière. De sorte qu'ils sont reliés au point de vue vie apostolique, mais pas nécessairement tous engagés du même degré au point de vue apostolique. Vous voyez ? Parce que de fait, c'est très différent de ce qui a existé avant. Avant, ils se sont forcés. Maintenant qu'ils commencent à être plus nombreux comme prêtres, de sorte que ce sera un peu différent. Je dis ça parce que je crois qu'il faut quand même essayer de bien saisir les différences. Alors, il y a frère Jean-Benoît, frère François d'Immaculée et frère Yves-Marie. Il reste un quatrième que je n'ai pas encore averti, alors je ne le dis pas ici tout. Peu importe, vous verrez bien qu'il y aura un trou. Je pourrais le dire tout de suite, parce que vous êtes prêts à tout. Quoi. Je crois que vous êtes prêts à tout. Vous êtes tous prêts à faire un acte d'obéissance héroïque. Hein. Autrement, c'est pas la peine. Ce qu'on a dit ce matin, complètement donné à sa vierge. Oui, je suis bien. C'est moi qui l'écris. Alors, donc, ça, c'est notre premier prioré. Il n'est pas encore érigé en prioré. Hein. C'est encore une maison. C'est encore une maison. Parce qu'il ne peut pas y avoir encore de prieur de façon absolue. Vous voyez, on est tous à l'état embryonnaire, même les prieurés. Et même Cotignac est dans un état embryonnaire. Le 24, la venue du Père Abbé. Du Père Abbé de l'Évance. Oui, c'est tout à fait différent. Mais ce sont des nouvelles successives, comme ça. Je les prends comme elles sont. Ça n'a pas d'importance. Hein. C'est pour moi. Alors, le Père Abbé compte. Il est en passant. Il ne vient pas exprès pour nous. Il est dans une. C'est le retour de la réunion des supérieurs majeurs de la vie monastique. Réunion importante. Il faut prier pour ça, du reste, parce que c'est important. Je sais qu'il y a des choses qui être là à ce moment-là, il y a des tendances différentes. Il faut prier parce que ça ne va pas être si commode cette réunion et elle est importante. Alors le père abbé reviendra et il y aura à ce moment-là l'ordination des prophètes temporaires comme lecteurs et des lecteurs comme acolytes. Donc les prophètes temporaires qui ne sont rien si ce n'est prophètes temporaires, donc ils sont en novice, ils recevront le lectorat. Il faut qu'ils s'y préparent. Et ceux qui ont reçu le lectorat recevront l'acolytat. Il y en a combien de prophètes à Fribourg ? Nombreux. C'est très nombreux, ça. Tous ceux de Fribourg.
C'est ce week-end-ci, le 24.
Le 24, c'est ce week-end-ci. C'est dimanche. Est-ce que les... Non, ça dépend pour Fribourg. Quoi ? Oui, c'est ce que je me demande, c'est ça, tant qu'à faire, comme vous dites. Oui, mais est-ce que Fribourg, les inscriptions, c'est jusqu'à quel moment ?
La semaine prochaine.
La semaine prochaine ?
Jusqu'au 27.
Je me demande,
c'est
jusqu'au 27.
Vous êtes sûr ?
Non, je ne suis pas sûr. Il faut consulter. Bon,
toujours, s'il vous plaît. Parce qu'il faut voir si ceux-là...
Quels sont ceux qui ne seraient pas ordonnés qui pourraient partir à Fribourg ? Qui n'ont pas d'ordination, ils ne vont pas faire.
Très bien.
Deux.
Trois.
Jean-François. Et puis Jean-François. Et Jean-François.
Stéphane-Marie. Stéphane-Marie, c'est les quatre.
Quatre.
Stéphane-Marie. Quoi ? peut y avoir une voiture.
Ça fait une voiture, ça.
Ça fait une voiture.
Oui, Stéphane Marie, Jean-François Père, Jean-François Marie aussi. Et puis toi.
Non, parce qu'il est pas à Chartres.
Vous pensez que c'est bien?
Ah, je crois qu'il faut quand même. Je crois le père Monténard est venu pleurer avec une telle ardeur. Et quand le père Monténard pleure, vous savez, il y a trois chiens qui... Ça fait des gémissements. Moi, j'ai peur de crier. Je dis pour faire mon zéla. Mais c'est... Je crois. Il y a des...
Il y en a trois qui partent.
Ça oui, c'est suffisant. Pour une voiture. Qu'il y ait une voiture. Les autres resteront, parce que je crois que c'est pas la peine de partir aujourd'hui. Après, alors c'est... ils resteront ici pour voir le point de départ. Bon. Alors... Maintenant, les prévisions, parce que ça, c'est déterminé. Les prévisions, ce n'est pas encore entièrement décidé, mais c'est en vue pour prier, quoi. Pour prier le 27 décembre, jour important, puisque ce sera la première fête de Saint-Jean ici. J'ai retardé mon départ pour être ici. C'est à cause de Jean Vallier, je dois partir le 27 au soir, je suis là le 27. C'est la retraite de Jean Vanier, c'est la retraite de l'alliance avec Jean Vanier. Je crois que c'est très difficile de... Non, c'est ici, c'est Orval. C'est à Orval, Belgique. Alors, frère Jean-Patrice, Stéphane Marie, Christophe Marie. Hein? John Thomas. Hein? Jean-Emmanuel. Henri-Christophe. Marie-Christian.
Ce sont les futurs oblats.
Ce sont les futurs, c'est l'oblature, ça, c'est l'oblature. C'est l'oblature. Et alors, ordination diaconat, qui aurait un peu plus tard, je ne crois pas que ce sera le même jour. On a toujours vu qu'il valait mieux pas que ce soit le même jour. Du reste, ça ne presse pas. L'ordination diaconat, du frère John Thomas, Jean-Emmanuel, Marie-Christian. Et aussi Stéphane Marie et Christophe Marie. C'est bon, au point de vue diaconat, parce qu'ils ont l'âge au point de vue théologique. C'est bon, parce qu'il y a la profession. Dès qu'on a la profession, on peut, au point de vue de l'Église, mais il faut normalement avoir fait ses années de théologie suffisantes. Je crois qu'alors, futur prêtre, ça aura lieu, le diaconat aura lieu ou à Reims ou à Rimont. Je souhaite beaucoup que ce soit à Rimont. Parce que comme diaconat, je crois qu'il faut que ce soit à Rimont. Comme ordination de prêtre, été 83, 15 août ou plus tard, ce sera sans doute les trois qui ont reçu le diaconat. Jean Thomas, Jean-Emmanuel, Marie-Christine. Ce sera cela, c'est la même chose. Stéphane Marie et Christophe Marie. Ça en fait 5, alors, 83. Ça fera donc porter à 16 prêtres. Et possibilité d'une nouvelle maison. Parce qu'ils doivent continuer leurs études. On sait très bien, quand ils sont prêtres, ils ont une. Un désir d'aller très très vite après, devant. Quand on leur dit de continuer leurs études, la moitié du temps, ils sont dans la vie apostolique. Je comprends que là, je ne suis pas en opposition. Alors, les frères qui doivent être inscrits à Fribourg, alors maintenant, on a réglé le problème, ce sera donc plus tard. Et alors, on verra pour quelques-uns. Ça, c'est surtout les chantres, les cérémonières. Comment ils doivent avoir un pied à Fribourg et un pied à Rimont. Ils reviendront de temps en temps. Ce que je vous disais tout à l'heure, du reste, moi, je crois qu'il faudra faire un petit roulement entre Fribourg et Rimont.
Mais bref, oui, c'est pour ça que je dis un petit roulement. Mais les chantres spécialement, particulières. Il y aura quand même des voitures, de temps en temps, moi je serai obligé d'y aller tous les 15 jours. Pas uniquement à cause de l'université, mais aussi à cause de la communauté Saint-Jean. Je viendrai tous les 15 jours. Les mardis, je vous dis tout de suite, hein, c'est les mardis. Parce que c'est les mardis où j'ai 4 cours. Donc je peux, sans bouger, rien bouger, venir le mardi. Et puis pour ici, ça arrange. Père, parce que je suis obéissant par rapport à l'organisation du cours. Très obéissant. Alors, est-ce que vous pourriez... il reste encore à les charges. On va nommer les charges.
Alors. Je crois qu'il le savent.
Vous le savez tous, vos charges.
C'est affiché.
Hôtellerie, je crois que c'est affiché.
Mais ce serait bien, ce serait de les bénir.
Ah oui. Mais alors, faut-il les bénir ici ou les bénir ce soir? Grande bénédiction accomplie. Moi, j'aimerais mieux qu'il y ait une bénédiction, des charges pour que tout soit là. Alors, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus le travail manuel, frère Jean. Je ne les ai pas mis sur la liste.
Est-ce qu'il y a un deuxième feu?
Ah, il y a deux. Ah, bon, il y a un deuxième feu, très bien. Alors, c'est parfait. Vous ne l'avez pas oublié, alors. Alors, il y a la question de la cellule. Qui doit être, c'est tout à fait autre chose. Hein. Le travail en cellule. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, nous ne travaillons pas comme les cisterciens, ou les trappistes plus exactement, les cisterciens ne font plus ça, mais les trappistes, ils travaillent dans une salle commune. Vous, heureusement, vous travaillez en cellule. Je dis heureusement parce que c'est très difficile de travailler en commun, avec son bureau, à côté. C'est très difficile. Travailler en cellule. Normalement, la cellule est un lieu de silence absolu. Je crois que ça, il faut s'y tenir vraiment. Donc, on ne reçoit pas ses frères dans la cellule. On ne les reçoit pas. Sauf permission. Ça, c'est évident. Il y a toujours la permission. Il ne faut jamais l'oublier. Sauf permission. Si pour telle ou telle raison, très bien. Et normalement, si on doit parler à l'un ou à l'autre, s'il fait beau, qu'on se mette un petit peu plus loin, qu'on aille se promener. C'est mieux, du reste, si on doit se voir. Mais alors, c'est difficile d'aller se promener pour travailler ensemble. Et il y a très peu de lieux qui permettent le travail ensemble. Alors, on va faire une petite entorse. Je crois... que lorsque un frère doit travailler avec un autre frère dans l'obéissance, ça peut être une obéissance pour toute l'année, vous voyez. Dans l'obéissance, alors à ce moment-là, il pourra travailler en cellule. Mais en faisant attention qu'il le fasse à voix basse pour ne pas déranger le voisin. Ce serait une bonne assaise. Oui. Oui. Ah oui, pas autant que possible, pas après le couvre-feu. Dans l'après-midi. Oui. Ça c'est sûr.
Quand?
Il y a des cours. Alors c'est le matin. Par contre, c'est les heures de travail en commun. C'est pas, il n'y a rien de précisé là-dessus. Non. C'est pas encore précisé, donc on précisera.
Pratiquement c'est le matin.
Je crois que c'est le matin.
C'est le soir après compris.
Ah non. Pas le soir après compris. Après le soir, après compris, rien du tout. C'est le silence. Ah non, ça c'est impossible. Vous alors, s'il y a une exception où on doit travailler, qu'on descend dans une salle en bas. Parce qu'après compris, il n'y aura jamais beaucoup. Alors qu'il y ait de fait, pour un séminaire par exemple, hein, on doit faire un coup de chien, et n'est-ce pas, qu'on doit alors nécessairement travailler plus, qu'on travaille en bas. Dans le petit paroi. Mais pas en cellule. Il faut qu'il y ait le silence absolu après compli. C'est déjà assez les cellules de ceux qui nous recevons. Ça ne peut pas être autrement. Après compli, c'est impossible. C'est impossible autrement, on est bien obligé. Alors là, on reçoit, mais ça, c'est très net. C'est uniquement dans ce petit couloir, et puis c'est tout. Mais le reste, le silence absolu. Oui. Oui, oui, ça c'est sûr. les gens qui ont des charges, vous voyez. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Et presbytère, vous faites bien de rappeler ça.
Pratiquement tous ceux qui ont une responsabilité de charge.
Tous ceux qui ont une responsabilité de charge, on peut les voir pour leur charge. Pas autrement. Pour leur charge. Et qu'ils aient le courage de dire, si ce n'est pas pour leur charge, non. Je crois, c'est pour maintenir le silence, vous voyez. Pour essayer de maintenir le silence. Mais encore une fois, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des permissions. Il faut être très net au point de vue des choses, et puis très souple au point de vue des permissions. Vous voyez, c'est la règle de Saint-Dominique, faisait que la première chose dans la règle, c'était la dispense. Et je crois que c'est très nécessaire. C'est la première chose, c'est la dispense. Parce que ça fait partie d'une souplesse de vie qu'on doit garder. On est une famille. Alors, dans une famille, il y a cette souplesse-là. Il faut avoir cette souplesse-là. Et alors, c'est pour ça qu'on ne doit jamais juger de l'extérieur, vous voyez. Parce que, vous voyez, un tel a parlé. Il a peut-être une permission. Ce soit votre premier réflexe, pas le réflexe du pion et du gendarme. Celui qui... Non, non. C'est très, très mauvais, ça. C'est contraire à la charité fraternelle. Alors, il y a les théologiens à Rimont, hein, qui sont dans une situation hybride, mais qui sont dans une très bonne situation, n'est-ce pas? Les théologiens, vous voyez bien, ceux qui sont et qui ont fini leur philosophie, qui sont les théologiens à Rimont. Il y en a combien, ça? Alors, ce sont des étudiants de deux ou troisième année de théologie. Il faudra que vous voyez avec le père Marielle.